When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec une femme exceptionnelle, journaliste d'origine béninoise, qui a travaillé pour Locora Radio France, qui a précédé RFI Radio France Internationale et d'autres activités journalistiques dont nous allons peut-être reparler. Je l'accueille pour parler du livre qu'elle a récemment publié aux éditions Présence Africaine et qui s'intitule assez joyeusement « Turbulente », sous-titré « Des Africaines en avance sur leur temps, des grandes pionnières ». Je vous cite « extraordinaires du XXe siècle qui ont osé se lancer dans des voies qui étaient loin d'être tracées d'avance, avec courage et détermination ». Ce sont 17 portraits de pionnières, donc extraordinaires, c'est le moins que l'on puisse dire, 17 pionnières en avance sur leur temps et qui ont fait avancer leur temps aussi. Certaines se sont engagées en politique, d'autres ont été sages-femmes, enseignantes, chorégraphes, esthéticiennes, journalistes, cinéastes. Elles ont mené leur révolution des cours d'école aux assemblées de l'ONU et vous leur rendez un superbe hommage. Bonjour Géraldine Faladé, bienvenue sur So Sweet Planet.
Écoutez, bonjour, je ne sais pas ce que vous allez me demander, je vais essayer de faire de mon mieux, de vous répondre, de vous aider à comprendre ou à nous connaître, ou à mieux connaître les femmes, les Africaines, parce que l'image qu'on donne de nous en ce moment ne correspond pas à la réalité. Les femmes africaines, même, ce sont des enfants, des petits-enfants, des turbulentes, mais elles sont là, elles se battent, elles créent et elles veulent avancer. Voilà, c'est ce que je peux vous dire d'elles. Et chaque fois que j'en vois une passer, je regarde. Quand je peux l'approcher, je l'approche. Ou c'est elle qui m'approche, j'essaye de comprendre. Je passe peut-être pour une curieuse, mais je suis contente d'être curieuse parce qu'elle m'apporte aussi beaucoup de choses. Et ça me permet de dire que finalement, ce sont mes aînés, les turbulentes dont je parle, les autres dont je parlerai aussi sont mes aînés. Et elles ont osé très vite se lancer, elles se sont lancées dans le combat. Partant de là, je pense qu'il faut qu'on parle d'elles. Peut-être on ne parle pas beaucoup des femmes, on a parlé que des hommes, on a vu que les hommes. Mais les femmes étaient là, elles étaient au combat, elles ont encouragé d'autres femmes au marché, ici et là, en leur disant « Allez-y, c'est notre affaire, c'est pas seulement l'affaire des hommes, c'est notre affaire, c'est votre affaire, cette affaire, c'est l'affaire, nos affaires, parce que c'est aussi pour nos enfants. » Donc voilà.
Oui, et d'ailleurs vous parlez des différentes générations qui se sont succédées, que vous observez. Et là nous sommes en fait pour cette interview dans la mairie du 6e où a lieu aujourd'hui le salon du livre africain au moment où nous enregistrons, où vous allez tout à l'heure donc vous rendre pour une séance de signature sur le stand de Présence Africaine, votre maison d'édition. Alors ces pionnières que vous mettez en lumière, elles se sont battues pour l'Afrique, pour les femmes, pour leurs droits et contre les injustices. Et j'ai l'impression en fait que ce livre répare une injustice aussi. Comment il est né ce livre ?
D'abord, je vais vous dire que la plupart des femmes, ou toutes les femmes dont je parle aujourd'hui dans ce livre Turbulente et dont je parlerai dans Turbulente 2, j'espère, ont connu la...
Ah oui, deuxième volume.
Oui, ont connu la naissance de Présence Africaine. Elles l'ont vécu aussi. Moi, on me le raconte plutôt. Mais ces femmes étaient là, ces femmes ont suivi Aline Diop, le créateur de Présence Africaine.
Donc, maison d'édition, et on va en reparler un petit peu après, un lieu incroyable où il y a eu un bouillonnement culturel.
Où il y a eu beaucoup. Il y a eu Senghor, Aimé Césaire, David Reich, il y a eu beaucoup. Ben, c'était l'emballement. Alors, donc, elles aussi, elles sont venues. Elles étaient pas, elles ne regardaient pas les hommes seulement aller à présence africaine. Elles aussi, elles étaient là. Bon, maintenant, parlons de Turbulente, si vous voulez.
Vous faites bien de le dire, parce que justement, on va y revenir aussi sur ça, sur cette invisibilisation. Et grâce à ce livre, enfin, on peut connaître, et surtout l'histoire peut garder une trace de toutes ces femmes. Je me demandais, hier soir encore, j'étais dans votre livre, et je me demandais combien de temps ça avait pu vous prendre pour retracer tous ces parcours, pour retrouver, parce que c'est pas juste factuel, voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, dans chacun des portraits. Et je me demandais combien de temps ça vous avait pris, donc, pour retracer tous ces parcours, pour retrouver les contextes, parce qu'il y a les contextes culturels, les contextes familiaux, les contextes historiques, les obstacles auxquels elles ont dû faire face, les soutiens aussi qui leur ont permis parfois d'avancer. Donc ça a dû être un travail colossal. Comment vous vous y êtes prise pour...
Disons que j'ai dû commettre des erreurs. J'ai demandé à ceux qui l'ont lu, qui me connaissent, de me dire pour que je corrige. Mais Solange Faladé est mon aînée de 10 ans.
Oui.
Solange Faladé, ma sœur, a...
Psychanalyste noire.
Oui, mais a beaucoup a milité en tant qu'étudiante et tout. Donc, elle allait à toutes ces réunions où il y avait Madeleine Lee, où il y avait toute, enfin, une bonne partie, Anenba et ses femmes, qui croyaient à l'Afrique. Ça se passait à Paris. Ils se retrouvaient rue Soufflot, dans un café de la rue Soufflot. Moi, j'étais interne. Quand je sortais, ma sœur, parce qu'on avait des courses à faire, ma sœur m'amenait à ces réunions. Mais attention, elle ne m'amenait pas pour que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. On m'asseyait dans un coin, j'écoutais, j'observais. Et il y en avait que j'admirais physiquement. Moi, j'avoue que je ne sais pas si c'est leur parler ou quoi. J'écoutais. Donc, ces femmes, je les ai connues. D'autres, j'ai eu à les rencontrer après en tant que journaliste.
Oui.
Mais la plupart de celles qui sont là, même de celles qui... Je les ai connues, je les ai vues. Mais pour elles, j'étais la petite sœur qui allait, quoi. C'était la petite sœur qui venait, c'était la petite sœur curieuse, je ne sais pas. Mais voilà, j'étais... Donc, c'est pas... Écrire sur elles, oui, c'était un travail. Mais oui et non, parce que j'ai déjà eu à travailler pour le dictionnaire des femmes créatrices d'Antoinette Folk. Donc j'ai déjà eu des portraits à faire. C'est peut-être une tendance, un défaut de faire des portraits.
Pourquoi un défaut?
Ah, j'en sais rien, puisque je l'ai renouvelé, vous me dites ça m'a pris du temps.
C'est peut-être votre talent, justement.
Ça m'a pris du temps, oui et non, parce que ça...
Non?
Bon, oui et non, parce que ça, je l'ai écrit. J'ai écrit pour le dictionnaire des femmes créatrices, qui est paru bien avant ça. Mais j'aime écrire.
Oui.
J'ai des nouvelles, j'aime raconter, j'ai des livres. J'ai aussi un livre de contes qui est paru aux éditions Cori. Parce que moi, mon but, c'est l'Afrique. J'aurais pu aller demander, j'aurais pu et je pourrais demander à d'autres maisons d'édition pour telle ou telle chose. Mais je ne veux pas. C'est l'Afrique. Donc, je m'en tiens à continuer à écrire, à chercher des maisons d'édition africaines. Bon, si un jour, je peux, par un écrit qui en vaut la peine, jeune maison d'édition peut se lancer sans être un concurrent de Présence Africaine, parce que Présence Africaine a fait, donc il n'y a pas de problème. Écrire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais rien faire d'autre.
Mais on ne vous demande pas de faire autre chose, que vous le faites très bien. Et grâce à vous, en plus, moi j'ai été tellement ravie quoi, de pouvoir... Me plonger, découvrir ces femmes extraordinaires. Et ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est que vous n'avez pas choisi des femmes, vous ne les avez pas choisies pour leur notoriété dans une élite intellectuelle, même si la plupart en fait ont acquis cette notoriété, mais, enfin ce que j'ai ressenti moi, mais pour ce qu'elles ont fait bouger dans la société en étant les premières à ouvrir des voies jusque-là jamais empruntées. Par exemple, le premier portrait donc, de Josepha Jouffray. Oui. Elle fait sa révolution depuis son salon d'esthétique à Paris, dans le 5e arrondissement, donc en plein quartier latin, dans les années 60. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette révolution qu'elle fait à partir de son salon d'esthétique, dans un quartier en plein...
D'abord, elle a de l'argent, non par rapport aux grandes maisons de parfumerie. Comme oui. En tant que journaliste, je savais qu'il y avait des maisons de parfumerie, Elena Rubinstein, Arden, qui voulaient aller dans ce créneau. Elle, qui n'avait pas beaucoup d'argent, a pensé s'installer au quartier Lartner, rue Gay-Lussac. C'était pas grand, mais elle a choisi ce quartier parce que c'est pas loin de Luxembourg, c'est le quartier latin, ça allait vers les jeunes. Donc ça permettait d'approcher les jeunes, même les jeunes sans argent. Mais sa révolution, c'est que nous, à l'époque, à mon époque, j'ai plus cheveux, mais à mon époque, on se tressait. Mais comme on nous regardait bizarrement à l'époque, on mettait un foulard sur nos cheveux.
Pour cacher.
Pour les cacher. Bon, on n'avait pas de rouge à lèvres. Elle est arrivée, elle nous a d'abord fait comprendre qu'en sortant, en enlevant nos foulards, c'était joli. Ce que nos mères faisaient, elle a inventé des rouges à lèvres qui correspondaient à nous, mais en employant des noms.
Parce qu'il n'y en avait pas, les cosmétiques étaient que pour les peaux blanches.
C'est ça.
Les produits de soins de cheveux
oui,
aussi.
Oui, mais eux cherchaient à nous. Bon, la Bambara, elle a pris ça d'un truc de l'Afrique. Bambara, par exemple, c'était le rouge à lèvres, le bleu à lèvres. Mais à l'époque, on avait des femmes qui se tatouaient les lèvres pour le bleu. Elle a pris le peul. Par exemple, quand on a un peul, c'est une poudre un peu claire. Donc, elle a mis des noms. Mmh. Elle a mis des noms africains.
D'accord.
Dans tout ce qu'elle a fait. Oui. Nous, à l'époque, une révolution, oui. À l'époque, vraiment, on avait... Parce que 1960, c'était l'indépendance. Moi, j'avais déjà fini mes études. J'étais journaliste. Mmh. Non, mais à l'époque dont je parle, dans les années 50, on n'avait pas de bas qui nous,
ah oui.
de bas qui
oui.
nous allait. Donc, si c'est une révolution qui n'en est pas une. En tout cas, ça nous a permis, ça nous a dit, affirmez-vous. Affirmez-vous.
Et nous soyez sommes... fiers aussi.
Bien. Bien sûr, on a... On a tout, on est bien, n'ayez pas honte de vous, non. Soyez bien, n'imitez pas les autres. Restez dans votre peau, dans votre chose. Et dans ce créneau, vous vous affirmez. On a eu, par exemple, des Noires américaines qui sont venues, de Toni Morrison, qui sont venues dans son salon.
Mais ah oui, Toni Morrison.
Oui, mais elles pouvaient acheter leurs produits. Elles avaient de l'argent et c'était bien d'ailleurs. Tandis que nous, on achetait peut-être, enfin nous... Les autres, bon, j'étais journaliste. Bon, on achetait timidement un rouge à lèvres parce qu'on pouvait c'est tout ce qu'on pouvait se permettre. Mais ça ne l'a pas découragée. Voilà.
Elle a persévéré. Comme toutes les autres, elles ont ça en commun.
Et puis après, elle a décroché sur l'Afrique parce que le loyer devenait trop cher ou quoi. Mais elle a décroché sur l'Afrique. Elle n'est pas restée ici. Voilà.
Et vous l'avez connue? Vous fréquentiez son salon? Vous avez connu son salon?
Ben oui, j'ai fait je suis journaliste. J'ai fait fréquenter son salon, je ne sais pas. Mais j'étais journaliste. J'ai fait des reportages sur elle qui ont paru dans le journal, dans La Vie africaine.
Oui, on va en parler aussi.
Après, aller dans son salon pour bavarder, parce qu'elle était quand même assez ouverte. Oui, oui, je l'ai vue, je la connais. Elle était belle, elle était s'habillait bien. Alors, qu'elle n'hésitait pas à mettre des choses sur les cheveux, des trucs que nous n'osions pas. Elle a osé et ça nous a aidé à oser.
Voilà.
Voilà.
Elles étaient audacieuses toutes. Hein.
Voilà, audacieuses, voilà. Oui. Et elle a continué à l'être.
Et juste après, donc, le portrait de Josepha, on passe au portrait de la maman donc, de Fela Kuti au Nigeria. Et ça, j'étais aussi, je tombais de ma chaise parce que Fela Kuti, c'est devenu une légende ici. Il est connu hein, dans le milieu de la musique, c'est vraiment une légende. Mais je dois avouer qu'en fait, j'avais jamais entendu parler de sa mère. Et pourtant, mais quel parcours, c'est incroyable.
C'est une femme têtue.
Oui, mais alors têtue, c'est incroyable parce qu'elle a fait bouger. Quoi.
Elle a fait tout bouger.
Oui.
Elle a osé affronter les hommes. Et elle a su entraîner avec elle des femmes. Elle a fait que les femmes du marché, les femmes qui ne savaient pas leur apprendre à lire, à écrire, elle a su le faire.
Oui, c'est elle ça, parce qu'elle se battait la plupart dans plusieurs domaines simultanément. Quoi.
Oui, c'est ça.
Elle ne s'attaquait pas juste à... Je ne sais pas, dans le domaine médical, elles auraient pu... Non, il y avait toujours cet esprit collectif, en fait, d'entraîner avec elles.
Oui, mais elle ne pouvait jouer que la collectivité, parce qu'on ne peut pas me dire que ce sont des femmes qui cherchaient qui se battaient ou qui étaient en rivalité. Puisqu'à l'époque où elles sont arrivées, c'était l'époque coloniale. C'était les colons qui les nommaient ou les nommaient pas, qui leur faisaient avoir ce qu'ils voulaient. Donc, elles ne se battaient pas. Au contraire, elles se sont donné la main pour avancer, pour que l'Afrique avance.
Il y a un petit passage, la page 33, que j'ai noté dans son portrait. Vous écrivez « Une armée de femmes qui se distinguent toujours par leur tenue traditionnelle oui. entoure, comment on prononce, Funmilayo. Entoure Funmilayo. Tandis que les protestations et les marches se succèdent et malgré les menaces judiciaires, ces militantes refusent de payer leurs taxes. Oui. Elles reçoivent une formation pour pouvoir affronter des policiers si cela se révèle nécessaire. Des avocats venus de Lagos, pour les défendre sont présents. La présidente de l'AOU, considérée par les autorités comme une meneuse, est plus d'une fois condamnée par la justice. Elle fait appel, ne cède pas, plaide non coupable et n'est finalement jamais arrêtée. Par milliers, les femmes encerclent le tribunal à chacune de ses comparutions. On voit cette solidarité aussi qui est assez étonnante.
Cette solidarité, j'en parle là parce que c'est l'occasion. Mais les femmes ont toujours été présentes. Les femmes, je pense que je parle un peu des mamies Benz dans ce livre, je crois.
Au début.
Mais ce sont des femmes qui gagnaient de l'argent et qui ont mis cet argent pour elles, d'accord. Pour de jolies pagnes, mais au service pour l'évolution, pour le combat, pour en finir avec le colonialisme ou avec les brimades. Elles ont investi dedans, elles étaient là, que ce soit au Togo, que ce soit au Nigeria, que ce soit. Les femmes étaient là. J'espère qu'elles sont toujours là.
Et là, d'ailleurs, dans ce qui précède le passage que je viens de lire, elles demandent ce que le gouvernement fait des taxes. Sont prélevées, oui. Elles demandent des comptes et quand les résultats ne correspondent pas à ce que ça devrait être, elles se manifestent et elles résistent.
Parce qu'elles sont déjà très en avance pour l'époque, parce qu'elles osent. Elles osent dire non, cet argent que vous prenez, cet argent que ceci, cet argent que cela, cet argent doit nous revenir, c'est notre argent. Cet argent va servir dans d'autres pays, dans d'autres qui ne sont pas le nôtre. Mais nous, on en a besoin ici aussi, donc voilà.
Donc ces portraits que vous nous avez offerts, les difficultés que ces femmes ont subies nous permettent aussi, entre autres, d'approcher toutes les humiliations que les femmes ont subies, infligées par les colons, cette autorité coloniale qui est omniprésente à l'époque et qui refusait de les reconnaître, qui leur mettait sans cesse des bâtons dans les roues. Quelquefois par des mutations arbitraires, par exemple, dès qu'elles devenaient gênantes, ça revient dans plusieurs portraits, ces mutations qui sont imposées comme ça par l'autorité coloniale. Et donc cette autorité coloniale qu'elles ont combattue, contribuant à en libérer leur pays, même si leurs noms à elles ne sont pas restés dans l'histoire.
Leurs noms ne sont pas restés dans l'histoire, mais il faut tout faire maintenant pour ramener leurs noms dans l'histoire. Et c'est ce qu'on fait. Elles ont participé. Il y a des faits, des choses qui permettent de dire que c'est grâce à elle que telle loi a été faite, c'est grâce à elle qu'il faut le dire, on le dit. C'est peut-être, je ne suis pas anti, je ne veux pas incriminer les hommes, mais peut-être qu'à l'époque, on s'est laissé subjuguer par ce que le colon voulait. Le colon a choisi de mettre les hommes en avant plutôt, parce que c'était peut-être aussi la forme du pays ou la vue du colonisateur. Mais si on regarde bien chez nous, avant la colonisation, les femmes ont joué des rôles. Des femmes en Angola ont lutté contre l'arrivée des colons. Des femmes ont fait beaucoup de choses.
Oui.
Bon.
Dans ces portraits, vous montrez bien aussi les moyens qu'elles ont utilisés pour réussir ce qu'elles avaient entrepris. Et certaines ont déployé, par exemple, des trésors de diplomatie. Je pense à Hawa Keïta, page 87, où vous racontez « Dès la première rencontre, à la surprise de tous, la militante déclare la création d'une association apolitique et à caractère social, alors qu'elle savait, j'imagine, qu'on allait lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle était engagée, elle était connue pour ça et ça pouvait lui être reproché, on pouvait la bloquer. Donc la militante déclare la création d'une association apolitique et à caractère social, nul n'abordera les sujets politiques, quel que soit son parti. Elle insiste sur ce point. Les maris en sont grandement rassurés. La militante ne veut donc pas enrôler leurs femmes dans son parti. Elles sont malines.
Hein ? Ah bah oui, on est obligé de l'être. De toute
oui,
façon,
c'est ça.
On est obligé de l'être. Mais est-ce que c'est les Africaines seulement qui sont malines ? Je crois mille de rien, les femmes sont malines. Hein. Donc elles sont malines et elles disons qu'elle est mûre peut-être parce qu'il fallait... C'est une façon d'aider les femmes à avancer, à être dedans, à s'imposer. Donc c'était pas la peine de prendre les hommes de front, c'est tout. C'est pas la peine de bousculer la société. On peut faire avancer la société sans bousculer les choses. Voilà, c'est refaire la société qui me semble-t-il est important. Enfin, faire avancer la société, pas la refaire, mais faire avancer.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est la lucidité de ces femmes dans leurs analyses. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui ne voyaient pas les choses telles qu'elles les voyaient. Et elles ont développé donc une lucidité qui est telle qu'elles doivent se mettre en mouvement pour rectifier, pour corriger ce qui ne va pas. Par exemple, Madeleine Lee, vous écrivez dans la petite introduction de la page 97, la thèse que Madeleine Lee soutient le 9 juillet 1948 à la faculté de médecine de Paris, qui s'intitule « Introduction à une psychanalyse africaine », s'ouvre sur la dédicace suivante « Au médecin africain ». Son étude répond à la vision occidentale de certains médecins affectés aux colonies et qui abordent la psychologie et le traitement de la santé mentale des peuples du continent africain sans tenir compte de l'importance de l'environnement culturel. Elle sera d'ailleurs la première femme africaine médecin. Et ça, je trouve ça vraiment important parce qu'en fait, on a l'impression que ça commence à émerger aujourd'hui, que ce soit dans les ONG, dans tout un tas de domaines, qu'il faut tenir compte des populations locales. Ben oui, il serait temps. Là, on est quand même des décennies plus tard.
Mais écoutez, elles sont les premières. À partir du moment où elles sont les premières, face à une porte fermée, à des murs qu'elles ont bousculés, qu'elles ont fait sauter, on ne peut que... Je ne dis pas applaudir, on ne peut que dire il faut en parler, il faut les faire connaître, elles méritent elles ont le droit, un droit qu'on leur refuse. Voilà.
Elles analysent avec lucidité que les médecins, la vision occidentale de certains médecins affectés aux colonies, puisqu'en fait, comme dans plein d'autres domaines, les colons voulaient imposer leur modèle.
C'est ça, mais c'est pas seulement en médecine, c'est dans tous les domaines qu'on nous a imposé. Donc, c'est dans tous les domaines qu'on nous a imposé des modèles, en nous faisant croire peut-être que nous n'étions pas civilisés.
C'est ça.
Et qu'on continue encore à faire croire à certains jeunes que notre civilisation ne vaut rien, n'a pas de valeur.
Oui. Heureusement, il y a de plus en plus, je crois, de voix qui s'élèvent aujourd'hui.
De plus en plus, non, mais il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix qui s'élèvent. Et... En tout cas, ici, je ne sais pas. Enfin, je parle des Africains ou Africaines qui sont ici, je ne sais pas. Mais en Afrique, c'est fini. Les jeunes bougent. Les jeunes bougent. Les jeunes ne veulent plus.
Donc, quand même...
Oui, bien sûr. Mais c'est turbulent. Même si ce ne sont pas leurs enfants, je veux dire, génétiquement, ont eu des enfants. Enfin, disons qu'il y a une génération.
Il y a un héritage.
Héritage. Oui. Donc, c'est normal que les jeunes maintenant, que la jeunesse bouge en Afrique, elle voit, elle analyse, elle va à l'école, elle étudie, elle écoute. Donc, à un moment donné, j'espère que ça n'éclatera pas négativement, mais à un moment donné, on se dit, ça suffit. Ça suffit, voilà. Mais comment ? La question est là, comment ? Mais on avancera.
Il y a plusieurs choses qu'elles ont en commun, et notamment ce qui revient dans plusieurs portraits, je n'en avais pas connaissance, n'étant pas très érudite sur tout ça, c'est que plusieurs d'entre elles, peut-être toutes, rêvaient d'une Afrique unie. C'est vraiment quelque chose qui revient partout, et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ce qu'a représenté la panafricaine des femmes.
Écoutez, quand elles ont décidé de lancer la panafricaine des femmes, ça a circulé comme ça. Mais toutes, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, que ce soit celle dans les maquis, toutes sont venues à Dar es Salaam pour la panafricaine des femmes. Donc, Elles savaient qu'il fallait s'unir. Et elles l'ont fait, elles sont nées avant les hommes.
Dans les choses en commun, il y a aussi Rufisque. J'aimerais bien que vous nous parliez de Rufisque, parce que ça semble avoir été une pépinière de pionnières, de militantes d'esprit libre qui ont eu la force de prendre leur place.
Je ne sais pas si elles ont été... Oui, en tout cas, Rufisque, c'est là qu'on a formé les institutrices. Mais elles venaient de toute l'Afrique, aussi bien équatoriale qu'occidentale. Mais il y en avait plus de l'Afrique occidentale à Rufisque pour devenir institutrice.
Oui.
Mais aucune... Elle disait, je suis de tel pays. Pour toutes, elles étaient africaines.
Avant?
Ah oui, toutes. Et elles ont continué à s'interroger, à se suivre en tant qu'africaines. Elles étaient africaines. Elles savaient qu'elles iraient après leur diplôme au Dahomey, au Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Mais elles restaient en contact et elles étaient africaines. Moi, elles pouvaient apprendre le chant ou de l'un ou de l'autre. Un chant de la Côte d'Ivoire à celle du Dahomey ou à celle du Sénégal. Elles étaient africaines, voilà. Elles sont restées africaines.
Et vous nous permettez aussi, par la façon dont vous présentez ces parcours, de réaliser les liens de cause à effet entre les parcours et les combats individuels de ces femmes et leur rejaillissement sur la société. Parce qu'elles ne se battaient pas, comme on l'a dit, pour elles. Elles avaient une vision d'amélioration collective.
Oui.
Par exemple, Suzanne Vertu Diop, donc cette incroyable famille Diop dont nous allons reparler, vous écrivez page 111, « C'est à travers l'élaboration de ces textes conduisantes... » Alors, elle est donc magistrate au parquet de Dakar.
Oui.
Et donc, vous écrivez « C'est à travers l'élaboration de ces textes conduisant à la reconnaissance du droit des femmes, à l'établissement de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes, que la pionnière inscrit méthodiquement les éléments juridiques qui vont permettre à plus de la moitié de la population de sortir de l'ombre. » C'est pas rien.
Enfin, en tout cas, elle a eu l'idée de le faire. On le lui reconnaît quand même, aujourd'hui encore. Donc, je crois que c'est rien. C'était un travail de titan qu'elles ont fait, parce que tout, même la Madeleine Lee ou Suzanne, le matin, elles allaient au travail. Elles rentraient aussi avec leur travail. Enfin, ce que ça va donner demain, sans négliger pour autant la maison, la famille. Non, mais c'est demain qui les intéressait. Hein.
Et j'aimerais bien, si vous le voulez, que vous nous parliez un petit peu donc de votre sœur, Solange Faladé, la première psychanalyste noire, proche collaboratrice de Jacques Lacan et proche aussi du professeur Robert Debré.
Oui.
Donc, elle voulait être médecin.
Elle est médecin.
Au départ, voilà. Ensuite, elle a fait des spécialités. Elle est allée plus loin même que le simple cursus de médecin. Et j'ai lu dans votre
livre... Elle est pédiatre aussi, hein.
Voilà. Donc il y a le rôle de l'attache de l'enfant au dos, une pratique que vous écrivez qui était considérée alors comme sauvage
mais
et dont les bienfaits sont aujourd'hui largement admis.
Oui, mais à l'époque, quand m'a porté au dos, nos parents nous portaient au dos. Tout ce que nous faisions, et elle qui était restée un moment en Afrique avant, qui avait observé avant des idées pour sa thèse, elle a bien vu. Cette histoire de porter les enfants au dos, on nous a considérés, il n'y a peut-être pas encore longtemps, comme un fait de sauvage. Bon, mais elle, en tant que médecin ouvert, elle a vu ce que ça apportait, comment les enfants évoluaient. Et je vois aussi maintenant ce gosse qu'on porte devant ou derrière, regarde, observe, voit la vie bouger. Donc voilà.
Donc elle était militante aussi à Paris, avec les étudiants pour une Afrique unie.
Elle était plus que militante.
Ah bon?
elle a payé cher. Oui, mais militante, ce groupe dont je vous parle, que je suivais à l'époque, elle était encore étudiante en médecine. Beaucoup n'étaient que des étudiants d'ailleurs. Tout ce qu'elle est dans ce groupe-là, donc à partir de ce moment-là, Solange a toujours été... Je ne vous parlerai pas de ma famille. Donc Solange ne pouvait que, tout comme chacun de nous, ne pouvait que militer. Voilà.
Et donc elle voulait, après ses études, rentrer exercer en Afrique et vous dites ce qu'elle considère comme un devoir envers ses aïeux.
Okay.
De retourner exercer en Afrique, mais là encore, en fait, la place qu'elle bringe est donnée à un Français par l'autorité coloniale.
Oui, mais toutes ont toujours pensé que c'était leur devoir de retourner. Donc, c'était elle comme les autres. Mais Solange a postulé à la faculté il n'y avait qu'une seule université à l'époque coloniale, il n'y en avait qu'une. Sur le champ, elle avait en tout cas postulé. Il y avait un blanc et elle. C'est le blanc qui a eu le poste. Mais parce que, comme quand Solange a été présidente de la FEANF, la FEANF était là, non pas pour protester, mais pour dire ce qui va, ce qui ne va pas se dire. Donc elle a osé écrire. J'ai des lettres qu'elle a envoyées, de copies des lettres qu'elle a envoyées au gouverneur, etc. Donc on l'a considérée comme une militante, comme une dure militante.
Elle était gênante.
Donc elle était gênante, il a fallu la bloquer, comme on a bloqué mon père d'ailleurs.
D'accord. Et ces liens avec ce professeur Robert Debray, donc j'étais assez étonnée, parce que comme je vous l'ai dit, moi je l'ai connu quand j'étais petite fille, ce monsieur, et j'étais tellement étonnée de voir ce parcours aussi.
Mais elle l'a connu, c'est quand elle était étudiante. Il n'y avait pas des masses d'étudiantes en médecine. Hein. Je crois qu'elle devait être la seule à l'époque. Oui. Enfin, il y a eu Madeleine, mais elle l'a eu comme professeur. Bon, n'étant peut-être pas une idiote, il s'est intéressé à elle et elle aussi a prouvé qu'elle pouvait. Donc, je pense que c'était un homme avancé d'esprit. Il l'a aidé, il ne lui a pas barré la route, il a compris plutôt qu'elle allait chercher, comprendre, parce que ce qu'elle apprenait, qu'elle ramenait, intéressait aussi Debray. Donc,
il l'a même accompagné en ça. Afrique, au Bénin ou au Nigeria.
Il l'a accompagné au Nigeria, à Abeokuta, où elle allait travailler avec les psys, les choses. Donc elle a ramené des études ou la façon dont les psys se comportaient.
Oui, beaucoup de choses sur la santé mentale.
Donc elle apportait aussi quelque chose à Debray, à Robert Debray.
Dans le portrait de la sociologue Jacqueline Kizerbeau, j'ai lu qu'elle avait été diplômée à la Sorbonne en 1956. Oui. Et cette date m'a fait penser que 1956, c'est l'année où s'est tenu le premier congrès des écrivains et artistes noirs, un congrès qui est resté dans l'histoire, avec aussi présence africaine et tous les grands intellectuels qui étaient à Paris à cette époque, et ceux qui sont venus aussi des États-Unis. Et du coup, je suis, par curiosité, retournée voir cette fameuse photo où ils posent ensemble.
Oui.
Et en fait, je crois qu'il n'y a qu'une seule femme sur la photo, si j'ai bien regardé. Ce qui est quand même étonnant, parce qu'elle elle est diplômée cette année-là à la Sorbonne en 1956, donc on voit qu'il y a quand même
Mais les femmes se battent. Elles se sont battues, on ne leur a pas fait de cadeau. Elles se sont imposées.
Il a fallu du temps.
Dans toute l'Afrique, et même pour face à l'apartheid, quand j'en parlerai, elles se sont imposées. Elles ont obligé les hommes à les accepter. Voilà, c'est tout. Ce n'était pas des cadeaux. Hein.
Et on voit qu'elles ont, parce qu'il y en a qui sont toujours vivantes, qu'elles ont tout l'engagement chevillé au corps et il faut qu'elles agissent. Par exemple, Sita Bella, journaliste, vous écrivez qu'à sa retraite, elle a créé une nouvelle revue culturelle, même si je crois que ça n'a pas duré très longtemps. En fait, elle n'a jamais renoncé, quitte, dites-vous, à mourir dans la misère.
Oui, mais on n'a jamais... Oui, mais
donne l'idée de l'ampleur de l'engagement, quoi.
Est-ce que... Il y a Sita Bella... Parce qu'elle a eu beaucoup de mal. Mais si je prends Madeleine Lee, elle n'est pas morte riche, elle n'est pas morte pauvre non plus. Mais bon, si je prends Jacqueline Kizerbeau, aucune n'a la richesse au sens où on l'entend. Elles ont donné, quoi. Elles ont continué à donner jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, jusqu'à la fin de leur vie. Il y en a qui sont encore là, mais toutes celles qui sont parties ont donné jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Mais ils ont donné pour l'Afrique, pour la génération qui arrive.
Côté culture, deux beaux portraits aussi de Germaine Aconi, célèbre chorégraphe connue comme la mère de la danse contemporaine africaine. Oui. Et j'ai fait une recherche aussi sur elle, incroyable. J'invite nos auditrices et auditeurs à faire des recherches sur toutes ces femmes. Ne serait-ce que, je fais un aparté pour avoir des photos, parce que moi, ce qui m'a manqué, c'était de ne pas les voir. Mais je suis allée les chercher sur le net.
Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de photos. Les photos que j'ai reçues sont des photos que ces femmes ont prises il y a des années, des dizaines d'années. Donc, ça ne ressortait pas bien.
D'accord.
Il y avait le, il faut que ce soit aspect, enfin, il y a des critères qu'il faut que ce soit. Donc, c'est pour ça
de
que.
De contraste, de.
Oui, c'est ça.
Ah, oui.
C'est pour ça que pour ne froisser personne, il y avait qui était bien,
d'accord.
D'autres qui ne l'étaient pas.
Oui, d'accord.
Pour ne froisser personne, on n'a mis aucune photo.
Il fallait ménager les susceptibilités.
On n'a mis aucune photo.
Voilà, oui.
C'est la raison.
Mais alors, du coup, de cette recherche sur Germaine Aconi, je suis tombée sur un portrait récent sur la BBC, extraordinaire. Et en fait, à 76 ans, donc là récemment, en février dernier, elle s'est vue décerner un lion d'or à la Biennale de Venise. Mmh. Et la Biennale de Venise a écrit dans un communiqué « Sa contribution à la formation en danse et en chorégraphie des jeunes d'Afrique occidentale et la large diffusion de son travail dans son pays d'origine » et dans le monde, on fait d'elle l'une des voix indépendantes qui ont le plus influencé sur l'art de la danse. Puis aussi Sarah Maldoror, donc réalisatrice engagée dont on va parler. Germaine Aconi, donc qui a travaillé aussi avec Maurice Béjart, vous m'avez dit.
Qu'elle a aidé, oui.
Et donc elle a créé une école en Afrique. Vous pouvez nous dire un petit peu Vous la connaissez aussi apparemment.
Oh là là.
Vous l'avez toujours connue engagée. Elle a toujours.
Non, je peux la considérer comme ma nièce.
Ah.
Parce que c'est l'amie intime de ma nièce. Elles ont cheminé ensemble pendant leur à l'orphelinat. Germaine était, ma nièce aussi d'ailleurs a été pour d'autres raisons, a été placée aussi à l'orphelinat à Dakar. Elles ont cheminé ensemble, elles se connaissent, Germaine et ma nièce. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'elle a toujours voulu faire de la danse, elle n'a pensé qu'à ça et elle l'a fait.
Oui, elle a monté une école et rien ne l'a arrêtée en fait.
Non, elle voulait, on a pensé professeur d'éducation physique et s'en est servi. Mais ce n'était pas ça qu'elle voulait. Elle a toujours dansé.
Voilà. Il faut aller voir les vidéos, chers amis auditrices et auditeurs, de Germaine Aconi. C'est magnifique. Vraiment superbe. Et donc Sarah Maldoror, donc, qui est décédée récemment.
Oui, elle est décédée avec le Covid. Quoi.
Et donc elle, réalisatrice engagée, extrêmement courageuse aussi, qui est allée filmer les...
Donc c'est le lieu de combat.
Voilà, dans les maquis et les personnes torturées en Algérie.
Les lieux de combat, elle était là où on n'osait pas aller, mais elle allait, elle avait la curiosité, l'envie d'eux, elle allait, voilà. Elle n'est pas morte, celle-là aussi qui aurait pu être riche n'est pas morte riche, aucune d'elles ne sont riches. Enfin, elles ne sont riches d'argent.
D'argent, voilà. Et en fait, donc, j'avais très envie de parler de ce livre et de faire votre connaissance aussi, parce que j'ai l'impression, même si lorsque je vous ai dit ça au téléphone, vous vous en êtes défendu, mais quand même, j'ai l'impression, j'insiste, que vous avez été un peu turbulente aussi, même si vous m'avez dit j'étais la petite sœur. Mais j'ai lu que vous aviez participé à développer la presse au Tchad durant votre carrière au sein du ministère de l'Information. C'est
oui.
Exact ?
Oui, c'est exact, oui.
C'est pas un peu turbulente, ça?
Non.
Mais quand même.
Alors, si j'étais turbulente, je ne me donnerais pas le nom de turbulente.
Vous étiez nombreuses à développer la presse au Tchad.
Non, alors... mais je ne me donnerais pas le nom de turbulente parce que je ne peux pas, enfin, en tenant compte de ce livre,
oui.
Par respect pour mes aînés, je ne suis pas une turbulente.
Parce que vous n'étiez pas la première ou...
Ah non, si on veut, je peux que je sois la première ou non, ce n'est pas mon problème. Mais ce qu'elles ont apporté, ce qu'elles ont osé faire, je ne sais pas si j'aurais osé, moi je les suivais, c'est vrai. Mais par respect pour elles, par respect de tout ce que j'ai vu, par respect de tout ce que je sais de leur histoire, je ne suis pas une turbulente.
D'accord.
Je suis leur petite sœur.
Une petite sœur turbulente.
Non.
Non plus.
Qui veut porter leur voix, je le leur dois.
D'accord. Et vous avez participé, je crois, à la création du magazine d'information La Vie Africaine.
Oui, c'est nous qui avons lancé La Vie Africaine, oui, ça, oui. Bon, on n'est pas turbulent pour ça.
Donc ça, c'était à Paris.
À Paris.
Et puis vous alliez vous rayonniez, en fait, pour faire les reportages.
On n'avait pas beaucoup d'argent, hein, donc
oui.
on y a cru, en tout cas. C'était aussi nos rêves, notre rêve, qu'il y ait une presse féminine africaine. Pour il y avait les L, les je ne sais quoi qui circulaient, mais on voulait créer notre on a créé une presse africaine pour parler de l'Afrique. Il faut que quelqu'un parle de l'Afrique.
Vous avez été en presse écrite, mais en radio aussi, parce que l'ancêtre de Radio France Internationale.
Non, j'ai fait le CFJ,
le Centre français du journalisme.
Je suis sortie avec la presse écrite.
D'accord, c'était ça au départ.
C'était ça. Et la vie africaine m'a envoyé à l'indépendance des États de l'Entente, les quatre, le Dahomey, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta et le Niger. Quand j'ai eu fini mon truc de reportage, Côte d'Ivoire, Cotonou, c'est pas loin, je suis revenue à la maison, dans ma famille.
Au Bénin,
oui, je suis revenue à Porto Novo. Et là, mon père m'a dit, avec ça, comment tu vas gagner, enfin avec
le journaliste de presse écrite.
Comment tu vas gagner ta vie. Et c'est comme ça que j'ai faussé compagnie à mais tout en restant à mes amis de la vie africaine et que j'ai atterri à l'Okora. L'Okora ne s'appelait pas à ce moment-là l'Okora, c'était la Soraphom, où j'ai eu à vivre en tant que reporter. Beaucoup de... C'était l'événement de l'Afrique. J'étais en pleine indépendance. J'étais là quand on a assassiné... Enfin, j'étais là. J'étais de permanence quand on a assassiné Olympio. J'étais là en tant que reporter aussi quand en Algérie, ça n'allait pas, qu'on allait... Le truc des généraux qui allaient marcher sur Paris, disait-on. J'étais là au moment où on a assassiné, enfin, je n'étais pas à l'assassinat de Lumumba, mais j'étais en tant que journaliste, l'assassinat de Lumumba. Quand de ceci, quand de cela venait. Bon, voilà, j'étais là, oui. Donc, j'étais un reporter, j'étais journaliste. Je reste journaliste.
Peut-être, avant de terminer, quelques mots sur Présence africaine, puisque là, tout à l'heure, vous allez signer votre livre et que c'est quand même une maison d'édition qui a été un carrefour de beaucoup de, et encore aujourd'hui, de personnalités engagées qui a... ont édité, mais il n'y a pas eu que l'activité d'édition. Il y a eu la revue, il y a eu les réunions.
Oui, il y a tout. Enfin, faire connaître l'Afrique, c'était ça. Moi, je crois que c'est tout. Présence africaine est une maison... Il n'y a pas que l'édition, disons Présence africaine. Présence africaine a fait passer la voix de l'Afrique, a permis à la culture africaine d'être connue. Et Présence africaine continue à faire.
Oui, toujours là, rue des Écoles. Oui. La librairie existe.
Toujours.
Voilà.
Présence africaine représente beaucoup pour moi, même si elle n'est pas... Elle n'a pas la richesse des grandes maisons d'édition.
Mais la richesse financière.
Financière, oui, mais elle tient.
Oui, parce qu'il y a une telle autre richesse.
Oui, mais elle tient.
Mais oui, voilà.
Elle résiste aux intempéries.
Oui. Géraldine Faladé, je vous remercie beaucoup. J'étais vraiment ravie qu'on réussisse à caler...
À se trouver.
Oui, cette rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaiteriez dire qu'on n'aurait pas dit encore sur ce livre, sur ces femmes, et peut-être un second tome?
Ah oui, il n'y a pas eu que... Ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest que les femmes se sont battues. Elles ont même participé au truc de la panafricaine. Donc il faut le dire, elles aussi, elles sont victimes comme l'ont été celles dont je parle aujourd'hui.
Voilà. Oui, celle du prochain oui. Volume.
Oui.
Oui, c'est ça.
Et après, on va arrêter, on va faire autre chose.
Je vois que vous avez plein de projets, j'en suis ravie.
On va essayer de tenir. Le temps est là, l'âge est là, beaucoup de choses sont... Mais enfin, on fait encore ce qu'on peut faire.
Oui, bravo. Voilà.
Merci.
Et merci. Merci de nous transmettre ça. Parce que, mais oui, parce que en fait, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça concerne tout le monde. Ça doit intéresser tout le monde, pas simplement, enfin je trouve, pas simplement les jeunes femmes originaires du continent africain. Pour moi, c'est passionnant de voir ça. Et c'est passionnant de découvrir aussi, parce qu'il y a aussi de notre histoire, de l'héritage de nos ancêtres blancs, colons, avec des personnalités, voilà, certains qui ont aidé, comme le professeur.
Qui ont fait, oui. Tous n'ont pas détruit, mais beaucoup ont détruit. Mais on reconstruit.
Voilà. Et au travers de toutes ces difficultés, vous nous permettez, grâce à ce livre turbulent, de voir les sillons qu'elles ont tracés pour repousser les limites et pour être, comme je vous l'ai entendu dire dans une interview, pour être dans la construction, malgré l'adversité, malgré les difficultés.
Mais oui.
C'est ça.
Oui, mais c'est toujours ça.
Non, pas céder au découragement.
Sinon, les jeunes qu'on voit aujourd'hui ne feraient pas ce qu'elles font. Hein. Donc, voilà.
Donc, un grand merci.
Merci aussi.
Géraldine Faladé. Bonne merci. Continuation.
On va essayer de continuer. C'est une petite pierre, mais on espère que ça fera quelque chose quand même. Voilà. Merci.
C'est sûr. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.